Bonsoir, je vais parler ce soir de la réminiscence socratique. J'ai intitulé lecture et interprétation au pluriel, parce que j'avais envie de revenir au texte, hein, qui est, puisque c'est un des textes les plus célèbres de l'histoire de la philosophie, et qui a suscité des commentaires à n'en plus finir. J'aimerais qu'on commence par lire le texte. Et j'aimerais développer un petit peu différents niveaux d'interprétation, sachant que, comme on va le voir, c'est un mythe, hein. C'est une référence mythique en fait, hein, qu'on a chez Socrate avec l'idée de réminiscence, à laquelle, à proprement parler, on ne peut pas croire. Donc la question c'est de se demander finalement quel sens est-ce qu'on peut lui accorder, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour nous d'une telle lecture, sachant donc qu'on est forcément, dans la mesure où il s'agit d'un texte mythique ou d'une référence à une parole inspirée, prophétique, divine, etc., on est forcément dans le domaine de l'interprétation. Alors, le texte est derrière moi. Pour une fois, j'ai apporté un texte tapé. On va le lire. Je vais développer un petit peu ce que ça signifie dans le contexte platonicien. Ensuite, je verrai rapidement comment Aristote a voulu naturaliser l'idée socratique et en donnant un tout autre sens à l'idée de réminiscence. Mais si on regarde un petit peu les dictionnaires actuellement, on s'aperçoit que c'est pas du tout le sens aristotélicien qui est resté, mais que c'est plutôt un sens proche de celui de Socrate. Hein. Donc on pourra voir un petit peu justement quel est le sens qui ressort dans le dictionnaire. Ce qui nous permettra de revenir à l'interprétation platonicienne, mais pour l'interpréter à notre tour, c'est-à-dire à la limite faire une interprétation de l'interprétation que Platon fait du mythe. Et puis éventuellement, je pourrais, en dernier lieu, évoquer d'autres interprétations possibles qui ont été faites de ce mythe. Mais pour montrer que, en tout cas dans la logique, elle renvoie finalement à ce que j'aimerais montrer. À savoir que finalement l'idée de réminiscence, elle nous renvoie à celle de tradition. Et l'idée de tradition, eh bien, je voudrais la traiter la semaine prochaine. Il y a une petite inversion qui a été faite dans le titre au niveau du programme, puisque mon titre c'est « La tradition entre mémoire et oubli ». Et je crois qu'il y a écrit « La mémoire entre tradition et oubli », ce qui prend beaucoup moins de sens et moins beaucoup. Donc le texte, je peux peut-être en faire la lecture, je trouve que c'est un très très beau texte. Socrate, voilà, j'ai entendu des femmes aussi bien que des hommes qui savent des choses divines. Mais non, que disaient-ils? Quel était leur langage? Socrate, un langage vrai à mon sens, et bon. Mais non, quel est-il? Quels sont ceux qui tiennent ce langage? Socrate. Ce langage, ce sont ceux des prêtres et des prêtresses qui s'attachent à rendre raison des choses auxquelles ils se consacrent, qui le tiennent. C'est aussi Pindare qui parle ainsi, comme beaucoup d'autres poètes, tous ceux qui sont divins. Ce qu'ils disent, c'est ceci. Voyons, examine s'ils te semblent dire la vérité. Suis une citation de Pindare, que je n'ai pas rapportée. Il déclare en effet que l'âme de l'homme est immortelle et que tantôt elle arrive à un terme, c'est justement ce qu'on appelle mourir. Tantôt elle naît à nouveau, mais qu'elle n'est jamais détruite. C'est précisément la raison pour laquelle il faut passer sa vie de la façon la plus pieuse possible. Or, comme l'âme est immortelle et qu'elle revient plusieurs fois, qu'elle a vu à la fois les choses d'ici et celles de l'Hadès, c'est-à-dire toutes les réalités, il n'y a rien qu'elle n'ait appris. En sorte qu'il n'est pas étonnant qu'elle soit capable, à propos de la vertu comme à propos d'autres choses, de se remémorer ces choses dont elle avait justement, du moins dans un temps antérieur, la connaissance. En effet, toutes les parties de la nature étant apparentées, et l'âme ayant tout appris, rien n'empêche donc qu'en se remémorant une seule chose, ce que les hommes appellent précisément apprendre, on en redécouvre toutes les autres, à condition d'être courageux et de rechercher sans craindre la fatigue. Ainsi, le fait de rechercher et le fait d'apprendre sont au total une réminiscence. Donc on a ici le texte célèbre dans lequel Socrate formule l'idée que apprendre, c'est se ressouvenir, Donc apprendre, c'est ressaisir un savoir qu'on a toujours possédé sans le savoir. Alors on peut resituer un tout petit peu le contexte du dialogue du Ménon. Ménon est donc un interlocuteur de Socrate, qui vient voir Socrate et qui lui demande « Dis-moi Socrate, si la vertu peut s'enseigner ?» Socrate lui répond « Je viens te répondre à ta question, Ménon, mais j'aimerais d'abord savoir ce qu'est la vertu. » Donc Ménon, à ce moment-là, apporte des définitions de la vertu, courantes dans la cité grecque, qui sont renvoyées par Socrate comme n'étant pas suffisantes, de sorte que Ménon s'énerve et se plaint de Socrate, qui, telle la torpille, l'a effleuré et l'a finalement engourdi, de telle sorte qu'il croyait savoir, et finalement il se rend compte qu'il ne sait rien. Et Socrate lui dit, eh bien, nous en sommes donc au même point, puisque si j'engourdis les autres en leur posant des questions, c'est pas parce que je prétends savoir, c'est parce que moi-même je ne sais pas. Et précisément, maintenant que nous n'avons plus conscience de notre ignorance, nous avons cherché ensemble. À ce moment-là, Ménon lui dit, enfin, comment veux-tu? Il présente une aporie hein, qui était célèbre chez les sophistes. Comment veux-tu, Socrate, que nous cherchions ce que nous ne savons pas? Puisque si nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous ne pouvons pas le chercher. Et si nous savons ce que nous cherchons, nous n'avons pas besoin de le chercher. Donc Socrate va répondre à cette aporie qui rend la connaissance impossible par la réminiscence. À savoir, nous avons en nous un savoir que nous ignorons et dont il s'agit de se ressaisir. Il s'agit pour nous justement de retrouver ce que notre âme a toujours su. De sorte que l'aporie finalement ne tient pas, puisqu'il y a là un savoir sans le savoir, alors que la théorie, elle tranche, c'est-à-dire soit je sais, soit je ne sais pas. Soit je sais et je ne peux pas, c'est pas la peine que je cherche, soit je ne sais pas et je ne peux pas chercher puisque je ne sais pas ce qui est à trouver. Donc si je sais sans savoir, à ce moment-là, j'ai la possibilité de chercher quelque chose. Alors ce savoir que je possède sans le savoir, c'est justement une mémoire. Hein, c'est un savoir qui renvoie à un temps immémorial où l'âme finalement a vu toutes les vérités, possédé toutes les vérités. Avant de revenir dans un nouveau corps, elle a traversé le Léthé ou le fleuve de l'oubli, comme on voit par exemple dans le mythe le Pamphylien, à la fin du livre 10 de la République. De sorte qu'elle sait, mais il y a un voile. Le voile du Léthé, le voile de l'oubli, qui recouvre en fait, qui recouvre ce savoir. De sorte que chercher, c'est se ressouvenir. Alors, je voudrais à partir de là faire juste quelques remarques à partir du texte. D'abord, je vous disais que c'était une parole, une parole mythique, qui présupposait une croyance. Hein. Socrate se réfère ici à des femmes et des hommes qui savent des choses divines. Et j'insiste ici sur le divin. On a déjà parlé l'année dernière, je sais, mais bon, je reprends là-dessus. Hein, j'y reviendrai par la suite. Ce langage, ce sont ceux des prêtres et des prêtresses qui le tiennent. Donc, ceux des prêtres et des prêtresses qui s'attachent à rendre raison des choses éveilles qui se montrent. Ça, qui le tiennent. Hein. C'est aussi Pindare qui parle ainsi, comme beaucoup d'autres poètes. Tous ceux qui sont divins. Donc il y a là, ici, référence à un domaine qui est celui du divin, qui est celui de l'inspiration poétique, puisque de fait, Socrate se réfère à Pindare. Alors ça pourrait sembler paradoxal dans un texte comme le texte platonicien, ça j'en avais parlé un petit peu l'année dernière à propos d'Unité du Logos, puisque justement il y a chez Platon, il y a avec l'émergence du Logos en Grèce ancienne, la volonté de parler du monde sans image et sans fable. Donc, de ne pas se référer à la tradition, de ne pas se référer au mythe ou aux fables, ni aux poètes qui sont des menteurs. Or, ici, on a de fait une référence au mythe, une référence au divin, une référence au poétique. Mais précisément, on peut constater que dans tout le corpus platonicien, Platon a référence au mythe et à la poésie concernant les choses que nous ne pouvons pas connaître. Nous qui ne sommes que des hommes, nous devons en ces matières nous contenter d'un conte vraisemblable, dit Platon. Ça veut donc dire que la référence au mythe, elle vient apporter une réponse sur des questions que l'homme ne peut pas connaître avec certitude, et elle est légitimée, elle est justifiée par le fait qu'on doit pouvoir en faire une interprétation qui soit en accord avec la raison. Donc on va faire un usage philosophique du mythe. De sorte que Socrate, en l'occurrence ici, ne peut pas prouver ce qu'on dit, ces êtres divins, ces femmes et ces hommes divins, et ces prêtres et ces prêtresses. Mais c'est là une hypothèse vraisemblable qui va permettre justement d'apporter des thèses conformes à la raison et qui vont pouvoir permettre justement, en l'occurrence ici déjà, dans un premier temps, de résoudre la théorie qui est présentée par Ménon. Comment est-ce que je peux savoir sans savoir? Parce que tu as en toi un savoir qui vient d'un temps immémorial. Et ce temps, c'est justement celui de l'immortalité. Donc, justement, là, dans un deuxième moment, on arrive à qu'est-ce qu'ils nous disent, hein, ces prêtres, ces prêtresses, ces hommes divins. Ils déclarent que l'âme de l'homme est immortelle. Et en fait, le principe auquel il se réfère ici, c'est celui de la métempsychose. On a également un autre grand dialogue qui est le Phédon, où le thème de la réminiscence et le thème de la métempsychose sont liés. Le thème de la métempsychose, donc, c'est que l'âme se réincarne dans un nouveau corps. Et ce qu'ajoute Platon, c'est qu'entre deux vies, l'âme vit pendant au moins 1000 ans dans un monde qui est le monde de la vérité, qui est celui justement où elle peut voir les vérités intelligibles. Donc elle se nourrit de vérités pendant toute cette période entre deux vies. Hein. Et donc l'idée de réminiscence est complètement liée à celle de métempsychose. Hein. Donc tantôt elle arrive à un terme, c'est justement ce qu'on appelle mourir, tantôt elle naît à nouveau, mais elle n'est jamais détruite. On sait précisément la raison pour laquelle il faut passer sa vie de la façon la plus pieuse possible. Alors ça c'est un commentaire de la citation de Pindare qui ne dit pas les choses de manière aussi explicite du tout et qui en fait renvoie à la tradition orphique, hein, qui est bon, mal connue. Enfin, bon, Pindare lui-même, il était influencé par cette tradition orphique, puisqu'en fait, il s'agit de thèses qui sont très très nouvelles chez les Grecs. L'idée de la métempsychose, qu'il puisse y avoir une vie après la mort, qu'on soit récompensé ou puni en fonction de la manière dont on aura vécu, que donc il faut être pieux parce qu'on a à craindre justement cette vie après la mort, c'est la tradition orphique qui l'a introduite et que Socrate reprend via Pindare. Bon, il y a aussi une influence pythagoricienne, puisque Pythagore lui-même disait se souvenir de ses vies antérieures. Mais Pythagore, il le disait seulement pour lui. Il n'y avait que lui qui se souvenait de ses vies antérieures. Puis ensuite, ses disciples, une fois qu'il était mort, on dit la même chose pour eux, mais ce n'était pas pour tous les hommes. Alors qu'ici, il y a quelque chose qui concerne tous les mortels. Nous avons une vie antérieure, nous avons eu des vies antérieures, et plus encore, nous avons vécu non seulement l'âme est immortelle, elle renaît plusieurs fois, donc elle a vu à la fois les choses d'ici et celles de l'Hadès, c'est-à-dire celles du monde invisible. Donc non seulement elle a l'expérience de tout ce qu'elle a vécu dans chacune de ses vies, mais en plus, elle a saisi dans la tête, dans le monde intelligible, des vérités intelligibles qui sont restées, enfin, qu'elle a conservées en elle, qu'elle a mémorisées. Qu'elle a mémorisées, mais qui en même temps reposent dans l'oubli. Puisque elle ne sait pas qu'elle a cette mémoire qui repose en elle. Donc il n'est pas étonnant qu'elle soit capable, à propos de la vertu comme à propos d'autre chose, de se remémorer ces choses dont elle avait justement, du moins dans un temps intérieur, la connaissance. Donc, remémorer ici, c'est anamnésiste, hein, c'est le terme d'anamnèse. Hein, hein. Anamnèse qui correspond au terme de réminiscence. Anamnèse, c'est en grec, réminiscence, c'est en latin. Et ça signifie se ressouvenir, se remémorer. Donc, il faudra avoir éventuellement un rapport entre mémoire et ressouvenir. Donc, en effet, toutes les parties de la nature étant apparentées, et l'âme ayant tout appris, rien n'empêche donc en se remémorant une seule chose. Ce que les hommes appellent précisément apprendre, en fait, qu'il le sache, c'est la remémoration. Donc, dans la réminiscence, il y a toujours un sans-savoir. L'homme sait sans savoir, et quand les hommes apprennent, quand ils font ce qu'ils appellent apprendre, en fait, ils n'apprennent pas, mais ils retrouvent un savoir qui reposait en eux. Donc, on en redécouvre toutes les autres. Rien n'empêche donc qu'on en redécouvre toutes les autres à condition d'être courageux et de rechercher sans craindre, et de rechercher sans craindre la fatigue. Ainsi, le fait de rechercher, le fait d'apprendre sont au total réminiscence. Une réminiscence. Donc, il y a un certain nombre de présupposés qui sont très, très forts dans le platonisme, à savoir que ce que l'âme a vu justement dans l'Hadès, et c'est là-dessus c'est sur ce point que revient Socrate dans le Phédon, lorsqu'il discute avec ses disciples en attendant la mort et qu'il s'interroge sur l'immortalité de l'âme. Et où justement la réminiscence intervient comme une preuve de l'immortalité de l'âme. La preuve que l'âme est immortelle, c'est que nous nous souvenons d'un certain nombre d'idées que nous n'avons pas pu trouver dans le monde sensible, et qui sont en nous. Mais donc ça suppose que dans ce monde invisible dans lequel l'âme est en train de vivre, ce qu'elle saisit, ce sont les idées ou les formes, c'est-à-dire ce que les choses sont en soi. On a donc ici une thèse qui est fondamentale dans l'idéalisme platonicien, savoir que les idées existent par elles-mêmes, dans un monde intelligible, que l'âme n'a pu avoir accès à elle que lorsqu'elle était morte, puisque tant qu'elle est dans le corps, elle est dans une prison, le soma, le corps, le séma, la prison, la sépulture de l'âme, de sorte qu'elle ne peut pas avoir accès à ces vérités. Donc, il y a un certain nombre de choses que j'ai dites pour l'instant que je reprendrai à un second degré. Mais par exemple, l'idée que les idées existent par elles-mêmes, indépendamment des individus. Dès qu'on a un savoir qui repose en nous sans le savoir, c'est-à-dire une mémoire vivante qui est active en chacun de nous, mais qui repose dans l'oubli. Et que peut-être effectivement apprendre, c'est se réapproprier quelque chose qui est posé en nous, en chacun de nous, mais sans que nous le sachions. Donc ça c'est donc pour une première approche du mythe, et on a donc, l'interprétation platonicienne, c'est une interprétation idéaliste qui suppose la croyance en l'immortalité de l'âme et la croyance ou l'affirmation de l'existence de vérités intelligibles, d'idées intelligibles, dans un monde intelligible auquel l'âme n'aurait accès qu'entre deux vies. Alors, je vous ai dit à partir de là que le disciple de Platon, Aristote, je reviens aux sources de la philosophie, la semaine prochaine je serai beaucoup plus dans la modernité, je serai carrément dans le XXe siècle, mais j'aime bien revenir au fondement. Aristote, lui, il va reprendre ce terme de réminiscence à Platon et va lui donner un tout autre sens, bien qu'il y ait aussi dans le philède de Platon, qui était le Platon sur plaisir, une distinction qui va plus dans le sens d'Aristote et qui est peut-être plus conforme à la tradition des Grecs, parce que souvent Platon dit des choses qui sont en rupture avec ses contemporains. Et Aristote, lui, il distingue. Il y a un texte qui s'appelle De la mémoire et de la réminiscence, c'est Mnémée et Anamnésis. Et puis il en parle très très rapidement dans son traité de psychologie qui s'intitule De l'âme, le De Psyché. Le psychologie, ça fait un peu titre clair. Et Aristote, donc, lui, va faire une distinction entre mémoire et réminiscence, mais en fait, toute la critique d'Aristote, elle repose sur le fait qu'Aristote refuse le monde des idées platoniciens. Pour Aristote, il n'y a pas d'idées séparées. Et pour Aristote, l'âme est une table rase. Une table rasa, ça sera repris ensuite, par les empiristes au XVIIe et au XVIIIe siècle. L'âme est une table rase, elle est comme une tablette de cire sur laquelle viendrait s'imprimer tout ce qui est vécu, tout ce qui est appris durant son existence empirique, c'est-à-dire durant son expérience. Et donc il n'y a absolument pas de référence chez Aristote à un savoir immémorial, comme c'est le cas dans la réminiscence platonicienne. Alors Aristote lui fait la différence entre la mémoire, qui serait en fait le simple souvenir qui surgit de manière quasiment passive, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est pensé comme une infection de l'âme, comme un pathos, comme quelque chose que l'âme reçoit, sans l'avoir cherché, quand tout d'un coup on a un souvenir qui nous revient. Et il le distingue de la réminiscence qui suppose un travail de remémoration. À ce moment-là, il y aurait un effort que l'âme ferait pour retrouver des souvenirs oubliés. Mais c'est le travail. Alors il y aura d'ailleurs dans la tradition toute une mnémotechnique, hein, toute une histoire en fait de la mnémotechnique et des topos, hein, que topoi, je n'ai pas fait grec, donc je fais des fautes de grammaire quand je cite le grec. C'est-à-dire des lieux, c'est-à-dire, il va y avoir à partir d'Aristote. Hein, justement, on va se représenter en fait des lieux qui vont permettre, auxquels on va associer certaines idées dont on veut se souvenir, etc. Il va y avoir toute une technique de la mémoire qui va être très très développée par les rhéteurs romains et puis ensuite dans toute la tradition, hein, et puis jusqu'à l'humanisme. Donc ici, on a à ce moment-là l'idée que la réminiscence, par opposition à la au souvenir, à la mémoire, à la mnémée passive, elle est volontaire. Hein, il y aurait le souvenir qui lui est involontaire et qui surgit sans que je le veuille, et puis la réminiscence qui, elle, serait volontaire. Paul Ricoeur, par exemple, quand dans La mémoire, l'histoire et l'oubli, quand il commente cette référence, enfin, ce texte d'Aristote, juge, à bon titre, je trouve, que c'est étonnant que Aristote ait gardé ce terme de réminiscence, alors que justement Aristote pense la réminiscence dans un cadre totalement étranger à celui du mythe, du divin, de la croyance, et de l'involontaire, finalement. Bon, alors vous me direz, chez Socrate, c'est pas forcément... C'est pas complètement involontaire, puisqu'il y a un effort pour apprendre. Mais ce que Socrate appelle réminiscence, c'est pas un effort de mémoire. Et ça, justement, c'est une chose qui semble un petit peu, hein, qu'il va falloir un petit peu éclaircir. Socrate ne dit pas que pour apprendre, il faut faire un effort de mémoire. Pour apprendre, il faut faire un effort de réflexion. Donc, il faut chercher, il faut réfléchir, et puis il faut s'approprier le savoir par la compréhension, en liant les idées entre elles. Parce que si on ne les lie pas, logiquement entre elles, elles s'envolent. Hein? Donc si on veut les retenir, et retenir c'est comme quand on fait un effort de mémoire, si on veut retenir les idées, c'est pas par des moyens mnémotechniques, c'est par la compréhension. Et tout le travail de déduction, d'enchaînement logique des idées, doit servir justement à les lier entre elles pour qu'elles ne s'échappent pas. Elles ne s'échappent pas de l'âme, puisque sinon... c'est toujours finalement contre l'oubli que la mémoire fonctionne. Hein. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est le travail du raisonnement et de l'apprentissage à la réflexion qui permet la mémoire effective. Donc, chez Aristote, cette idée d'une réminiscence qui renverrait un savoir, une connaissance immémoriale, disparaît complètement. Ceci dit, si on regarde le terme de réminiscence dans le dictionnaire, je regarde dans le petit revers, référence que je trouve toujours très très, très utile, très utilisable. C'est en fait dans un sens beaucoup plus proche de celui de Platon que l'idée de réminiscence est parvenue jusqu'à nos jours. Alors, le petit Robert cite le sens philosophique platonicien, hein, savoir l'âme cherche à. L'âme se souvient d'un savoir qu'elle a possédé après la mort et d'avant de revenir dans un nouveau corps. Mais sinon, on a le sens de réminiscence dans le sens justement d'un surgissement involontaire du souvenir. Donc justement ce qu'Aristote appelait souvenir, souvenir simple, mémé, eh bien c'est finalement ce qu'on appelle tout aussi bien réminiscence. Sainte-Beuve est cité, qui dit que justement les réminiscences sont des souvenirs flous, involontaires, insaisissables, qui ressurgissent justement là où on ne s'y attendait pas. On nous dit également dans le dictionnaire que justement on parlera de réminiscence à propos par exemple d'un artiste qui va être influencé par des artistes qui l'ont précédé ou par un artiste qui l'a précédé, mais sans s'en rendre compte. Donc on dira à ce moment-là qu'il a des réminiscences, c'est-à-dire qu'il retrouve quelque chose qui l'a précédé, qui finalement l'a formé, qu'il porte en lui, mais sans le savoir. Du coup, on va retrouver des influences inconscientes, finalement, chez cet artiste. Dans le dictionnaire, il parle aussi du fait que, justement, quelque chose ressurgit, justement, comme un souvenir, mais sans être reconnu comme tel. C'est-à-dire qu'on croit découvrir quelque chose, ou même l'inventer, alors qu'en fait, c'est un souvenir oublié qui refait surface, qui réapparaît. Donc ça pourrait renvoyer un petit peu aussi à ce que dit Socrate. C'est-à-dire, quand on apprend, ou quand on réfléchit, et donc même éventuellement quand on découvre des choses nouvelles, eh bien en fait, on se ressouvient de quelque chose qui était toujours déjà là. Alors, ça pourra poser le problème de l'invention. Est-ce qu'on est condamné à répéter éternellement ce qui était toujours déjà là, ou bien est-ce qu'on peut inventer du nouveau? Mais justement, la leçon peut-être de Socrate, c'est qu'on peut inventer du nouveau que sur la base du ressouvenir. Donc on pourrait dire d'une certaine manière, en ressaisissant une tradition qu'on s'approprie, et qu'on vient utiliser d'une manière singulière. Hein, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que chez Socrate, il faut justement apprendre à penser. Alors justement, cette recherche rapide que j'ai faite dans le dictionnaire, elle venait insister sur le fait que dans le langage courant, et en psychologie et par la suite en psychanalyse, on aura l'idée que la réminiscence, c'est un processus qui est involontaire, qui est inconscient, qui se fait sans le savoir. Hein, donc, y compris la réminiscence dont parle Socrate, hein, puisque quand on croit apprendre, voire découvrir même de penser. Découvrir des idées, hein, sans savoir, on retrouve ce que l'âme a toujours déjà su. Alors sur ce toujours déjà, je le retrouverai la semaine prochaine, puisque je vous parlerai entre autres de Heidegger et de la notion de tradition telle que Heidegger a pu la penser. Et on retrouve justement cette idée d'un toujours déjà, d'une origine immémorial qui est oublié, qui est ignoré et qui en même temps porte en nous et qui ressort. Bon, puis j'irai aussi du côté des textes de Freud dans Moïse et dans l'autisme, justement où il parle de la tradition. Alors justement, en ayant fait ce petit détour rapide par Aristote et puis par le dictionnaire, pour voir que finalement c'est pas le sens d'Aristote qui était retenu, mais un sens qui est beaucoup plus proche du sens socratique, ça me fait donc revenir à la leçon socratique, tenter justement de l'interpréter, mais je crois que finalement j'ai déjà donné beaucoup d'éléments de cette interprétation, donc je vais le faire très très rapidement. Puisque justement, ce qui m'intéresse en fait dans le texte de Socrate, en fait, bon, je pourrais dire un petit peu de quelle façon j'ai pratiqué ce texte, parce que pendant des années, en classe de terminale, j'ai pris un dialogue de Platon qu'on travaillait à fond. Donc je me suis retrouvée devant l'idée de réminiscence en travaillant Ménon, en travaillant Phédon, ça m'est arrivé une ou deux fois pour chacun de ces dialogues. Et la réaction des élèves, mais qui est aussi la mienne, je dois dire, celle que j'ai pu avoir quand j'étais en terminale, c'est si on ne croit pas à la métempsychose, si on ne croit pas qu'il y a une vie de l'âme après la mort, qu'est-ce qu'on a à faire de ce texte? Qu'est-ce qu'il nous apporte, hein, si j'y crois pas à tout ça, bien tout ça, ce sont des mythes, ce sont de pures croyances. Et en fait, j'ai petit à petit essayé de voir comment, en fait, pourquoi il faisait sens pour moi, ce texte-là. Et la manière que j'avais de l'expliquer, et qui avait l'air d'être assez convaincante, je crois, c'est que justement, ce dont parle Socrate, c'est de quelque chose qui relèverait de l'histoire, d'une culture qui nous est commune, et qui fait que finalement, un savoir est déposé en nous qui excède la conscience que nous en avons, ou qui excède même la capacité que nous avons de le ressaisir et d'y réfléchir. Et à la limite, c'est pratiquement ça le travail de la philosophie. C'est-à-dire, quand on dit qu'on va partir des idées toutes faites, des idées communes, c'est-à-dire d'un niveau qui est pensé par les philosophes comme le niveau de l'irréfléchi, c'est-à-dire ce qui s'appelle chez Platon le niveau de l'opinion. Le travail de la philosophie va consister justement à réfléchir et réfléchir. Mais cette réflexion sur l'irréfléchi, je ne l'entends pas comme une espèce de savoir dominant ou une espèce de maîtrise du philosophe qui saurait ce que pense, le commun des mortels. En tout cas, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que ça m'intéresse. Ce serait plutôt, donc ce n'est pas dans le sens d'aller se mettre au-dessus. Ça serait plutôt dans le sens de l'approfondissement, ça me semble intéressant. Et de telle sorte que finalement, il y aurait l'idée d'un développement d'un développement des idées communes, et que c'est précisément en les développant ce qui s'appellera aussi un petit peu déconstruction chez Heidegger. Enfin, destruction, au sens allemand du terme, hein, qui est traduit par déconstruction, qu'on retrouve chez Derrida, hein, et qui consiste en fait justement à déconstruire les idées, et c'est ce que faisait Socrate. C'est pour ça qu'on lui a fait voir les cigus. Lors du procès de Socrate, on lui a reproché de ne pas croire au dieu de la cité, donc de ne pas croire, et d'engager les jeunes qui étaient en face de lui, à poser des questions, à remettre tout en question, au lieu de leur apprendre des choses solides pour qu'ils puissent ensuite occuper des postes dans la cité. Donc, il y a chez Socrate justement ce mouvement qui consiste à défaire, mais parce que c'est un mouvement qui consiste à décomposer, à défaire le lien, à analyser, hein, et à développer. De telle sorte que il y aurait finalement un travail qui consisterait à ressaisir la pensée mais avec l'idée en même temps que cet impensé, il est toujours déjà là. Et que tant qu'il appelle des pensées, il fait sens, mais qu'il n'existe finalement qu'une manière, on pourrait dire, virtuelle. Si bien que cette idée de réminiscence chez Socrate, je la trouve très très forte, puisque finalement ça consisterait à ressaisir cette histoire ou cette tradition dont on hérite, hein, qui nous fait membre d'une culture, voire d'une culture plutôt que l'humanité tout entière, surtout quand les Grecs se pensent comme étant les seuls, enfin, pense tous les autres comme étant barbares. Donc l'idée ici, c'est de ressaisir justement ce qui repose hein, en chacun de nous. Hein. Donc ça suppose une référence qui n'est pas présente chez Socrate, c'est vrai, à l'histoire, hein, puisque Socrate, lui, pense ça sur le mode de l'éternité. Mais justement, ce qu'on pourra voir aussi la semaine prochaine, c'est que c'est pour ça que je me tournerai du côté de Heidegger, ce que Heidegger appelle l'historialité, c'est justement le fait que l'homme est un être qui existe historiquement, donc que finalement, l'histoire, elle repose justement sur... elle suppose une temporalité, mais elle repose sur ce qui, chez Heidegger, s'appelle un oubli de l'origine. Hein, c'est-à-dire que je ne devrais pas m'en sortir sur Heidegger aujourd'hui, parce que ça, je vais court-circuiter les choses. Donc je reviens à Socrate et donc à cette idée qu'il n'y a pas effectivement l'idée de temporalité chez Socrate, puisqu'on est dans le cadre de l'éternité. Ceci dit, dans l'interprétation que j'en fais et le sens que je lui prête, en fait, j'introduis cette dimension de la temporalité et de l'historicité. Il y a une autre dimension que j'aimerais introduire et qui est ultra présente chez Socrate, c'est celle du langage. Qu'est-ce qu'on apprend quand on apprend à parler ? Quand on apprend à parler, on n'apprend pas seulement à se servir de mots comme d'étiquettes qu'on poserait sur des choses, hein, mais quand on apprend à parler, il y a un acte de transmission dans l'apprentissage de la parole, et finalement c'est toute une représentation du monde, c'est toute une culture qui nous est léguée finalement, comme s'il y avait justement quelque chose qui reposerait dans le langage, qui excéderait les mots qu'on utilise, hein, mais qui justement ferait qu'il y a du sens, hein, et du sens qui peut circuler entre les individus. Hein. Donc ça veut dire que quand je parle, il y a du sens qui excède complètement ce que je dis, et il s'agirait justement de ressaisir cet excès de sens, hein, ou cette impensée, mais ressaisissant cet excès de sens ou cette impensée, est-ce que justement on ne ferait pas signe vers quelque chose qui est toujours déjà là, c'est-à-dire en tout cas qui nous précède et qui nous fait parler, qui nous fait ce que nous sommes et qui nous fait parler. Donc c'est pour ça que, en me mettant sous le signe donc ici de l'histoire et du langage, et de la conscience, puisque de fait la dimension de la conscience est ici présupposée, tout ça me conduit vers l'idée que je voudrais travailler la semaine prochaine, donc qui est celle de la tradition. Parce que l'idée de tradition, elle suppose aussi une temporalité, elle suppose une histoire. Et elle est à la fois une mémoire qui est inscrite dans les individus. Selon moi, ça passe par le langage. Donc une mémoire qui est inscrite dans les individus et qui en même temps est scellée dans l'oubli. C'est pour ça que j'ai parlé de la tradition entre mémoire et oubli. Que finalement, tout le travail de la réflexion, il consisterait justement à ressaisir cet excès de sens, finalement. Bon, mais sur la tradition, j'aurais aussi d'autres choses à développer. Si bien que, finalement, dans l'idée de réminiscence, il y aurait l'idée de... quasiment l'idée de répétition, hein, puisque le « ana » de « anamnase », il signifie le retour, le rappel. Et donc, la réminiscence serait rappel, retour vers l'origine, retour vers ce temps immémorial, hein, et qui en fait peut être pensé comme une répétition. Le terme de répétition, éventuellement, on pourra en reparler par la suite, parce que bon, je l'entends par exemple de la façon dont Kierkegaard, par exemple, parle de la répétition. Bon, en fait, on parle de la répétition comme d'une réminiscence en avant, et la réminiscence socratique comme d'une répétition en arrière. C'est-à-dire que la répétition, pour Kierkegaard, elle est projet, et on ne répète jamais exactement de la même façon. C'est-à-dire que la répétition est renaissance à chaque fois. Donc il y aurait justement dans le travail de la réminiscence ce, ce travail de répétition qui est à chaque fois une nouvelle naissance. Donc ça, c'est la thèse que j'avais envie de travailler aujourd'hui. Alors juste pour elle, parce qu'il me reste encore un petit peu de temps, revenir à d'autres interprétations de la réminiscence socratique qui ont été faites, qui ne me satisfont pas. Et bon, je pourrais montrer un petit peu pourquoi. En gros, dans la tradition, la réminiscence socratique, elle a été interprétée comme... elle a été reprise par toutes les théories du linnéisme. Savoir qu'il y a en nous une connaissance innée. Alors il y a un premier niveau de cette reprise qui consiste à dire que tout le savoir, tout ce que nous pouvons connaître renvoie en fait à un savoir inné. Quand ça a été repris dans la tradition chrétienne, c'était l'idée finalement que tout ce que nous savons, nous ne pouvons savoir qu'en Dieu, on retrouve Dieu, enfin, on pourra y revenir par la suite justement, tout ce que nous savons, nous ne pouvons savoir qu'en Dieu, puisqu'en péchant, l'homme s'est éloigné définitivement de la vérité. S'il veut avoir accès à cette vérité, il n'y a que en Dieu qui peut finalement le faire. Et puis il y a d'autres versions de cet innéisme, bon, qui reviendrait davantage éventuellement à la théorie kantienne de la connaissance, enfin en tout cas dans la préface qu'a fait Monique Amthaus-Perber du Ménon en collection GF, c'est vraiment dans ce sens-là qu'elle pense vraiment la réminiscence socratique comme préfigurant la théorie kantienne de la connaissance. À savoir, ce dont nous nous souviendrions, ça n'est évidemment pas tout le savoir, puisque aucun homme sensé ne pourrait admettre que nous nous souvenons de la totalité des connaissances que l'homme peut avoir. Ce qui veut dire qu'elle admet qu'on puisse malgré tout avoir des idées innées. Elle ne remet pas en question l'innéisme, elle ne remet pas en question même à la limite l'origine divine du savoir, enfin je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il que, comme ça pourrait sembler absurde d'affirmer que l'homme se souvient sans le savoir de toutes les connaissances passées, présentes et à venir, bien on va opter pour un innéisme soft qui consiste finalement à dire ce dont on se souvient, c'est d'un certain nombre de catégories, d'un certain nombre de principes logiques, donc catégories, concepts, et puis des principes logiques qui permettent de les ordonner, de les avancer dans un raisonnement. Et c'est finalement ce bagage inné que tout homme posséderait, qui lui permettrait justement d'enchaîner des idées dans un raisonnement et d'avancer dans la connaissance. Alors justement, bon, ça renvoie d'une certaine manière aux catégories kantiennes qui sont a priori chez Kant. Et donc Kant dit que leur origine, finalement, elle est à rechercher dans un fond secret de l'âme humaine, une faculté secrète de l'âme humaine, c'est-à-dire qu'en fait, la réponse justement, quand il s'agit de dire d'où pourraient venir ces catégories que nous n'avons pas trouvées dans l'expérience, mais que nous appliquons aux choses de l'expérience, la réponse c'est oui, un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine. Donc il n'y a pas de réponse, on se retrouve donc une fois de plus devant cette impossibilité de répondre qui était celle de Socrate, à savoir, quand on connaît, comment est-ce qu'on peut savoir que ce qu'on connaît est vrai? C'est-à-dire finalement que, oui, la question c'est celle vraiment de la connaissance. Alors justement, après Kant, il y a des philosophes qui ont pris une autre direction. Mais qui en fait, justement, c'est quand même les questions d'histoire et du langage qui vont se développer, qui vont être développées au XIXe et au XXe siècle. Puisque la question qui sera posée par les post-kantiens, c'est justement ces catégories dont la raison se sert, d'où viennent-elles? Si on refuse de les penser comme a priori, et qu'on les pense comme le résultat d'une histoire, et d'une histoire de la raison, d'une histoire du langage, à ce moment-là, on revient finalement à ma thèse. C'est-à-dire que l'interprétation de la réminiscence qui consisterait à dire il y a des idées innées, bon d'accord pas toutes mais seulement les principes ou les catégories, finalement si on vient demander oui mais ces principes ou ces catégories, est-ce qu'ils sont innés ou bien est-ce qu'ils sont le résultat d'une histoire? Est-ce qu'ils sont le résultat de l'histoire humaine, de l'histoire de la raison, de l'histoire du langage, de la manière dont l'homme justement a créé des concepts pour pouvoir rendre compte des choses qui l'entouraient, etc. À ce moment-là, on aurait l'idée finalement qu'il y a là quelque chose que nous recevons, une mémoire finalement, hein, qui serait déposée dans le langage, qui fait que nous croyons que ces idées sont innées et qu'elles sont en nous. Je ne sais pas très bien par quel miracle. Hein. Alors qu'en fait, elles nous ont été léguées. Et qu'en apprenant à parler, on accède à tout un ensemble de catégories qui nous permettent de penser les choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Par exemple, si on pense à l'idée de causalité, si je dis que l'idée de causalité est innée, ça suppose que tout homme, normalement constitué, va trouver cette idée de causalité en lui. J'ai envie de demander, mais pourquoi il trouve l'idée de causalité en lui? Il y a bien eu un apprentissage, hein, un apprentissage du langage, d'une logique, même d'un certain esprit logique, qui lui est transmis, et qui fait que, rien qu'en accédant à ce langage et à cette logique, effectivement, il peut retrouver un certain nombre d'idées qu'on ne lui aura pas explicitement transmises, mais qu'il possède, parce qu'il a justement ce bagage linguistique, mais à entendre au sens fort du terme, qui lui permet justement, en réfléchissant, de retrouver un certain nombre de catégories et même de raisonnements logiques. Bon, sinon, il y avait justement, en travaillant un petit peu cette préface de Monique Antos-Ferber, elle faisait justement une autre dernière référence à Leibniz, hein, qui parlait, lui, qui se réfère à la réminiscence platonicienne, et qui dit finalement, enfin, qui loue la réminiscence, cette idée de Socrate, hein, en disant que ça serait se méprendre que de croire qu'il s'agit d'un savoir actuel, c'est-à-dire que nous saurions effectivement, qu'il y aurait une connaissance effective dans l'âme de tout ce qui a pu être su, tout ce qui est su et tout ce qui est à savoir. Mais il dit que justement c'est une connaissance virtuelle. Mais justement, ce qui est intéressant chez Leibniz, c'est qu'il y a différents degrés de l'âme, c'est-à-dire qu'il y a l'âme rationnelle qui est capable de réfléchir et de faire un effort de mémoire et de faire un effort de raisonnement. Et puis il y a ce qu'il appelle la substance formelle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque individu, chaque monade, pour reprendre le langage de Leibniz, chaque individu est en fait une expression de l'univers tout entier. Donc, chaque individu reflète, est un miroir de l'univers. Chacun de nous représente un point de vue sur l'univers. Et parce qu'en fait, puisque si nous sommes composés de formes et de matière, la forme de chaque individu, c'est celle qui lui est donnée par Dieu, Dieu qui lui est omniscient, et finalement, chaque individu participe de ce savoir divin à sa façon. Donc, quand on se réfère à Leibniz ici, on retrouve finalement cette même référence au divin, qui permettrait d'affirmer finalement qu'en chaque individu, il y a un savoir infini, qui pour être actualisé demanderait une analyse infinie, demanderait une recherche infinie, et qui justement devant le mystère que représente ce savoir infini qui reposerait en chacun de nous, répond une fois de plus par la réponse divine, par Dieu. Et alors moi, ça me fait penser à des choses dont j'ai peut-être un petit peu parlé l'année dernière, à savoir que, pour prendre l'expression de Lacan, Dieu est inconscient. Moi, à chaque fois que je vois la réponse par le divin, J'ai envie justement de... très très souvent, il s'agit de quelque chose justement qui, en l'homme, dépasse l'homme lui-même, c'est-à-dire d'une méconnaissance que l'homme peut avoir de lui-même et qu'il projette sur un être divin qui serait finalement la clé, hein, qui permettrait justement d'apporter une réponse à ce mystère. Alors là, justement, c'est ce mystère-là que j'ai eu envie, et que la réminiscence socratique me donne envie de travailler. C'est-à-dire de revenir là-dessus et de me dire, bon, c'est pas Dieu, c'est pas une vie entre... c'est pas la métempsychose, il n'y a pas là quelque chose de divin, mais quelque chose de proprement humain, et dont j'aimerais trouver, finalement, des éléments de réponse en me tournant du côté de l'histoire et du côté du langage. Et en fait, ben, c'est un petit peu vers ça que je retournerai la semaine prochaine, justement, en interrogeant l'idée de tradition. Voilà. Je ne sais pas si on a deux micros qui marchent. Je passerai le mien. Voilà. Bon, ça peut éventuellement faire référence à des choses dont on a déjà un petit peu parlé depuis le début. Depuis le début de l'année, sur la mémoire, bon, il y a eu un petit peu des idées très... des discussions assez polémiques à propos de l'idée d'inconscient, par exemple, dont je reparlerai aussi la semaine prochaine et dont on reparlera quand je ferai cette discussion avec Jean-Paul Aumier, qui est psychanalyste. Ça peut aussi faire signe, à travers l'idée de tradition, vers la question de ce que peut être une mémoire collective, la mémoire collective, et ça c'est des choses que j'ai en tête quand je travaille là-dessus, j'aimerais aussi développer davantage la semaine prochaine, et je pense qu'on pourrait aussi tout à fait aborder dans la discussion. Je laisse digérer un petit peu.
C'est complètement hors sujet. Je vais faire un interprète handicap, mais en attendant, ça fait écho par rapport à ce qu'on peut expérimenter, par exemple, en méditation. Je suis sans doute hors sujet, mais je ne sais pas, l'hindouisme, c'est bien un peu ce qu'on recherche, c'est bien un peu ce qui est recherché, cette espèce de savoir. On a en soi universel. Mais par contre, il y a cherché une façon un petit peu inverse. On essaie au contraire de mettre la réflexion, le raisonnement, un petit peu en arrière. Au contraire, j'essaie de pénétrer par cette espèce de sentiment universel et peut-être de savoir universel. Parce que c'est un grand sujet. Merci.
Moi, je ne trouve pas du tout un sujet, mais j'ai aucune expérience de la méditation, du bouddhisme. Oui, et il y a effectivement, et en effet, ça se fait à ce moment-là par le laisser, laisser faire. Mais on retrouve des choses comme ça chez certains philosophes romantiques au 19e qui ont été influencés par le bouddhisme et par l'hindouisme. Et justement, qui ont parlé de l'état de naissance qu'il s'agirait de retrouver pour pouvoir justement avoir accès à un savoir oublié et que la réflexion finalement serait presque une obstruction à la résurgence du savoir. Ceci dit, je pense par exemple à Schelling, qui est un contemporain de Hegel. Pour Schelling, ça c'est le premier moment, qui est le moment de la méditation. Et ensuite, la philosophie, elle va chercher à développer ce qui s'est donné là, dans une intuition, fondatrice finalement. Donc, il part de ce qu'il appelle cette forme de naissance, de non-savoir, mais qui est la condition finalement de l'émergence d'un savoir qu'ensuite la philosophie va développer.
Il peut y avoir aussi la démarche inverse, c'est-à-dire les grands maîtres sont souvent des gens extrêmement cultivés, mais donc qui ont une culture évidemment
philosophique et scientifique.
Et ils disent qu'il faut passer par là, c'est-à-dire par lire l'idée entre guillemets, et justement pour se laisser pénétrer par ces choses qui ne sont pas de l'ordre du raisonnement, de la conviction. Il faut commencer par le savoir, le cultiver.
On a aussi ça, c'est vrai, dans les traditions mystiques, y compris dans la tradition européenne. Et on a ça aussi dans la philosophie, on a ça chez Nietzsche avec la troisième métamorphose qui consiste à redevenir enfant, c'est-à-dire à retrouver l'immédiateté, d'une certaine manière. Donc c'était un sujet, je trouve pas. Ça me pensait justement au courage.
Oui, avec l'essentiel de la réflexion, à mon sens, ce que j'ai compris, c'est qu'on cherche un petit peu d'où peut venir la vérité. Qu'est-ce que la vérité, est-ce que je peux critiquer mon langage, est-ce que je peux douter des catégories que j'avance. Et donc, je me demande, moi, si on ne pourrait pas essayer d'apporter la notion de la réalité de l'amour. Parce que dans l'apprentissage du langage, chez l'enfant, en tout cas, lorsque l'enfant est dans un milieu où il se sent aimé, le langage est plus facile et le langage se développe. Or là, j'ai l'impression qu'on reste davantage sur l'idée, mais que cette grande réalité qui est l'amour déjà de l'enfant, et l'amour aussi qui est notre réalité de chaque jour, c'est aussi une source de vérification et de certitude aussi. Je ne sais pas du tout si je me fais comprendre, mais c'est, si vous l'entendez, il y a l'idée, la recherche de la vérité, et la foi dans l'amour, ou cette vie intellectuelle dans l'amour. Je ne sais pas s'il ne faut pas chercher un petit peu à les marier, à les faire se rejoindre. C'est une question que je pose.
Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que vous l'entendez, mais en tout cas, chez Socrate, l'amour est présent, puisque, en fait, chez Socrate, il ne peut y avoir accès au savoir que dans un rapport qui est amoureux au sens large du terme, celui d'amitié. Vous avez par exemple le banquet, qui est un dialogue sur l'amour, et bien justement cette idée d'une dialectique ascendante, on retrouve aussi dans le Phèdre, l'idée du délire philosophique qui est un délire amoureux. Et en fait, bon, d'ailleurs Socrate a eu ces idées-là, elles ont aussi un impact sur les théories pédagogiques contemporaines, où justement l'affectif joue énormément dans les théories d'apprentissage. Et donc il y a un désir de savoir qui est aussi qui passe dans la relation à l'autre, qui est déterminant pour ce savoir. Et chez Socrate, c'est relié aussi à cette idée de réminiscence, parce que Socrate dit qu'il pratique l'art de la maïeutique, qui est l'art d'accoucher les idées. Et justement, la maïeutique, elle consiste en fait à poser des questions à l'autre pour qu'il puisse prendre possession des idées qui sont en lui et qu'il se rende compte ensuite, lors de la discussion, si elles valaient la peine ou si elles ne valaient pas la peine. Mais dans, disons, ce rapport, il ne peut se faire justement que dans le dialogue socratique, il y a justement toute cette dimension de l'amour et de l'affectivité qui est essentielle finalement au développement de la pensée.
De l'amour et de la vérité.
Oui, mais alors justement, le problème c'est que chez Socrate, bon, effectivement, peut-être qu'on parle de vérité. Dans les pensées que j'aborderai la semaine prochaine, le terme de vérité il n'apparaît plus dans ce sens-là, c'est-à-dire au sens d'un absolu. C'est-à-dire, si on cherche un absolu, effectivement, il est question, enfin, on peut admettre que Socrate finalement se réfère à une origine qui serait justement cet absolu, qui serait ce que le monde est en soi, ce que les choses sont en elles-mêmes. Et on détiendrait là une vérité, quelque chose qui même existerait indépendamment des individus et qu'il s'agirait de ressaisir. Le terme de vérité, je pense par exemple une fois de plus à Heidegger, dont je parlerai la semaine prochaine, Heidegger il revient au mot grec et il travaille le sens du mot grec originel, c'est aletheia. Et aletheia c'est a, c'est le privatif, l'été, et justement la vérité ça consiste à faire sortir de l'oubli. Donc il y aurait à ce moment-là un travail qui serait plus un travail herméneutique hein, dans le cadre de la phénoménologie, où justement il ne s'agit pas de découvrir la vérité, c'est-à-dire ce que les choses sont en elles-mêmes, mais de lever le voile qui couvre, de lever le voile qui recouvre finalement ce qu'il y a peut-être d'essentiel à penser pour l'homme, pour qu'il comprenne son être au monde et pourquoi il est jeté dans ce monde, en gros, ce qu'il a à y faire. Donc, bon, l'idée de vérité, moi j'aurais un petit peu tendance à l'aborder de manière critique.
Ce que vous avez dit sur en touchant un peu à cette vérité qu'on pose en nous, etc., m'avait fait penser à un livre que je lisais récemment. Qui est un livre L'homme qui connaît sa femme pour le chapeau. C'est un neurologue qui raconte comment, au travers de détériorations du cerveau, arrive à se mettre à jour des connaissances inouïes par compensation ou par quelque chose qui se démasque. Il y a plusieurs exemples. Bon, non seulement on connaît le cas de certains débiles qui peuvent voir en tombant d'une boîte d'allumettes le nombre d'allumettes qui sont allumées et qui ne sont pas un calcul mais qui sont une vision. Autrement dit, ces gens auraient une vision du monde qui est extrêmement différente de la nôtre. Il y a d'autres états de détérioration comme l'homme qui se prenait, dans le même livre, hein, des exemples, l'homme qui se prenait pour un chien, c'est-à-dire qu'au cours pendant une période de 6 mois, cette personne est rentrée dans l'univers olfactif du chien, c'est-à-dire des sens qui nous sont cachés et qui, et donc qu'il pouvait sentir dans son entourage les gens qui avaient peur, les gens qui. Leurs sentiments au travers de leurs odeurs. On a aussi d'autres déficits. cite parce qu'il compare aussi les débiles avec les génies. C'est-à-dire qu'une sorte d'inadaptation à la vie que nous connaissons, mais qui révèle des compétences qui sont inimaginables dans des domaines et qui font appel à des connaissances qu'ils démasquent du fait de leur... autrement dit qu'ils portent un petit peu en eux, dans des parties enfouies du cerveau. Enfin, je suis un petit peu organique là, mais ça illustre un petit peu ce que vous avez dit. Et ce livre, c'est Oliver Sacks qui... Moi, je trouve qu'il est étonnant et ça donne le vertige.
Vous dites un savoir qu'ils portent en eux, mais que c'est que nous portons.
Oui, mais justement.
Que nous portons en nous.
Excusez-moi, c'est parce que nous sommes envahis par trop d'informations. Ils sont inaptes au monde. Par exemple, les débiles sont inaptes au monde, mais ils ont des compétences inouïes. Que nous portons, comme l'histoire du chien, on a perdu le sens de notre action, mais. Il parlait de Shostakovich qui était un musicien qui pouvait se provoquer des épilepsies, c'est-à-dire des stimulations cérébrales par inclinaison de sa tête, et entendre des mélodies qu'il, en tant qu'artisan, était capable de remettre en forme, etc., et il les entendait.
Ça me fait, tout à l'heure je parlais de Leibniz, ça me fait un petit peu penser à une distinction qui est faite chez Leibniz entre la perception et la perception. Et Leibniz dit en fait que nous percevons une infinité de choses sans nous en apercevoir, de sorte que le savoir qui est en nous, enfin, est infini, justement. Et il s'agit, bon, la perception en un seul mot, à perception, ce serait synonyme de conscience. Et donc, il y aurait, oui, une source infinie de savoir, finalement. Mais alors, là où ça me un petit peu perplexe, vraiment, c'est des choses qui vont certainement me tomber dans la tête, c'est que vous abordez la chose du point de vue neurologique, là où je l'ai abordé d'un point de vue philosophique. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'on doit dissocier les deux. Je pense par exemple, quand je lis Ricard, que je trouve génial, à plein titre, dans son ouvrage, La mémoire de l'histoire oubliée, il y a ça qui me chiffonne toujours. Il a tendance à distinguer radicalement ce qui serait de l'ordre des traces mnésiques au niveau neurologique, et puis la pensée, l'esprit. Or, moi je pense que c'est pas séparable du tout, dans la mesure où la pensée, ben, c'est des connexions électriques, quoi. Enfin, bon, on pense pas sans le cerveau, et donc le fait que le cerveau soit, surtout que quand on dit que le cerveau est matériel, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que la pensée le soit, parce que ce qui se joue au niveau du cerveau, c'est pas justement, c'est des synapses, c'est pas quelque chose de matériel, hein, au sens où si c'est matériel, mais c'est insaisissable. Donc cette frilosité de certains philosophes à refuser de ramener l'esprit, ce qu'ils appellent l'esprit, aux traces mnésiques, je trouve même parfois un petit peu intéressant. Donc c'est pour ça que bon, je prête attention à ce que vous dites là, parce qu'effectivement, mais ça enverrait aussi à ce que disait Anna tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, peut-être que tout notre travail de réflexion logique sur le monde et toutes les conventions et tous les repères, toutes les catégories qu'on utilise quotidiennement pour s'orienter dans le monde, ça serait peut-être justement quelque chose qui ferait obstacle à tout un savoir, et que c'est en lâchant prise précisément qui, qui ferait surface. Et quand vous parliez tout à l'heure, j'en faisais penser justement à l'art. Et par exemple, à la façon dont Bergson en parle, en disant l'artiste, c'est celui qui lève le voile des conventions. Lever le voile, c'est toujours avec des gars. Hein. L'artiste, c'est celui qui lève le voile des conventions que nous avons interposées entre nous et les choses, et qui permet d'aller droit aux choses mêmes. Et en fait, bon, chez Bergson, ça signifie justement que la place qui est laissée à ce moment-là, ce qui peut s'exercer à ce moment-là, c'est quelque chose qui est d'ordre intuitif. C'est l'intuition qui, à ce moment-là, nous permet d'avoir accès à justement à quelque chose qui est d'ordre de la mémoire, qui est pensé comme mémoire chez Bergson. Mais justement une mémoire qui n'est pas ressaisie par l'acte de la réflexion, mais qui est justement cette espèce de flux vital, hein, qu'il appelle la durée. Et c'est d'ailleurs Proust s'y réfère. Proust est influencé par Bergson quand il écrit La recherche du temps perdu, où il s'agit justement de retrouver des impressions qui en fait sont des pans entiers de son histoire, qui ressurgissent justement, qui sont des réminiscences. Ça s'appelle des réminiscences en psychanalyse. À cette époque-là, justement, on aura l'idée de réminiscence qui va ressurgir justement dans la psychanalyse.
Dans ce très beau texte, finalement, cette recherche, elle est très individuelle, puisqu'on la recherche dans des expériences qui, dans le cadre de la métempsychose, auraient pu, des expériences antérieures, qui effectivement me permettraient d'apprendre. Et en fait, je reviens, mais je m'arrête, je reviens sur l'amour, qui est aussi qui n'est pas individuel, qui n'est pas une recherche individuelle, mais qui est une rencontre avec l'autre. D'ailleurs, bon, c'est ainsi, on m'avait entendu, je me ferai, j'ai tout appris de toi sur les choses humaines. Enfin, c'est l'autre qui m'apprend, qui me révèle, et pas seulement ma recherche dans ma propre expérience antérieure, dans ma vie intérieure. C'est une expression que j'ai.
Justement, chez Socrate, ça ne peut pas se faire tout seul, ça. Et ça se fait que dans le dialogue. Le dialogue dont le moteur, justement, est l'amour, au sens large du terme, chez les Grecs. Donc il y a effectivement... Et ça se fait dans le dialogue et par le travail sur le langage. Puisque dans tous les dialogues socratiques, il s'agit de prendre un concept et de travailler ensemble. Hein, donc on a... Sinon, ça c'est peut-être des choses dont je pourrais éventuellement reparler avec la phénoménologie, avec la notion d'intersubjectivité dans la phénoménologie. Parce que ce qui repose dans le langage, pour comprendre cette façon que je viens de le dire, mais bon, j'espère qu'elle est parlante, ce qui repose dans le langage, ça ne m'appartient pas à moi en propre, c'est quelque chose que je partage avec tous. Et c'est précisément l'appartenance à une culture commune qui fait que nous nous entendons et que même nous pouvons nous entendre à demi-mot. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'implicite. Donc, à aucun moment il n'est question de penser ça de façon individualiste. En tout cas pas chez un grec, parce que pour les grecs, justement, l'autre est le miroir de... L'autre renvoie, est le miroir de mon âme. Une chose à laquelle je pensais tout à l'heure à propos de votre intervention, madame, tout à l'heure, parce que je me suis référée à la tradition mystique, à Schilling, etc. Enfin, il y a l'idée justement d'un lâcher prise qui permet d'avoir accès à ce qui d'ailleurs chez les mystiques s'appelle indifféremment le rien ou le tout. Et ça me faisait penser à la façon dont Hegel avait pensé ces questions-là aussi. donc contemporain de Schelling dont je parlais tout à l'heure. Parce que chez Hegel, le savoir absolu, il est Erinnerung. Et Erinnerung, ça signifie, en allemand, je ne vais pas faire le mot non plus, mais c'est, vous me reprendrez si je me trompe, c'est la mémoire, c'est le souvenir. Mais alors justement, ce qui est, dans les textes que j'ai pu lire, il y a ressouvenir, remémoration, souvenir, mémoire. Souvent, les mots viennent les uns à la place des autres. Donc après, il faudrait se demander... Oui.
C'est quelque chose qui vient de là. Mm-hmm. C'est quelque chose qui vient de là. Mais mm-hmm. C'est pas de mémoire.
Ben, ça dépend de ce qu'on appelle mémoire. Parce que là, il s'agit de quelque chose qui vient de très très loin. Donc, soit on pense la mémoire comme mémoire immédiate de, du vécu.
C'est plus sur la réminiscence, c'est plus sur la réminiscence.
Oui. Mais c'est très bien pour mon propos. Parce que justement, quand on parle du savoir absolu chez Hegel, on le présente toujours comme le philosophe totalisant, voire totalitaire, qui présenterait justement un savoir total, etc. Mais en fait, le savoir absolu, il repose dans l'Erinnerung. C'est-à-dire qu'il est, il est de l'ordre du souvenir. Et justement, la tâche de la philosophie, c'est d'amener à son développement. C'est de le développer. Donc, il y a tout un premier mouvement de la philosophie de Hegel où il montre comment justement l'esprit s'est développé à travers son devenir et comment, à travers ce développement, finalement, qui est le développement de la culture, l'esprit s'est développé, il s'est donné un contenu. Mais ensuite, quand on arrive à la fin de la phénoménologie de l'esprit, justement, ce contenu, il repose dans l'éternité du souvenir. Et il s'agit justement, ensuite, dans la logique hein, de Hegel, de ressaisir ce qui existe dans l'intériorité. Mais cette intériorité du souvenir, elle est justement ce qui fait que l'esprit a un contenu. Donc à la limite, on peut penser au niveau individuel, savoir que chacun de nous est finalement la totalité d'une histoire, qui est son propre développement pour duquel justement il s'est donné un contenu, mais que ce contenu excède, puisqu'il existe justement dans l'intériorité du souvenir. Mais en même temps, Hegel, il le pense toujours à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, au niveau de l'histoire d'un peuple. Et puisque l'esprit, ce qu'il appelle l'esprit au départ, dans le premier texte hegelien, c'est l'esprit d'un peuple. Et justement, l'esprit d'un peuple, il repose justement dans l'intériorité du souvenir. Et ça me conduit une fois de plus vers cette idée de tradition que j'ai très envie de travailler un petit peu plus. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on peut s'arrêter là pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci. Merci.